Monsieur Gilmore, Kevin, bonsoir et bienvenue à Bonsoir les sportifs.
Bonsoir, ça me fait plaisir. Deux fois en trois soirs, donc vous allez me charger un loyer.
Effectivement, hein? Vous avez parlé à Mario, Kevin, lundi soir.
Oui.
Oui, bien merci de votre présence. C'est bien apprécié. Et je le disais d'entrée de jeu également, Kevin, c'est un an déjà à la présidence de l'Impact de Montréal. Est-ce qu'il y a un bilan déjà que vous tracez? Aimez-vous la direction que prend votre équipe?
Oui, j'aime la direction. Comprends, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pas comme si on peut, tant au niveau sportif qu'au niveau affaires, on peut pas nécessairement changer une culture d'un jour à l'autre. Mm-hmm. On a à faire des changements, on a à changer vraiment l'approche que les gens prennent du côté sportif. Comme j'ai mentionné à Mario l'autre soir, je pense qu'on est clairement dans la bonne direction, dans le sens que on a une structure en place. C'est quelque chose qui nous manquait. Pendant des années, c'était vraiment une structure où la promotion se faisait à l'interne. C'était un ancien joueur qui devenait entraîneur, qui devenait directeur sportif. Donc, des nouvelles idées, des fois, quand on opère de même, c'est pas quelque chose qui est naturel. On fait les choses de la façon qu'on fait les choses, parce que c'est toujours cette façon-là qu'on a fait les choses. Mm-hmm. Et maintenant, cette année, on est allé chercher un directeur sportif. On a fait une recherche exhaustive. On avait des critères assez importants, surtout quand on ajoute le fait qu'il fallait qu'il parle français, anglais et italien.
C'est sûr que ça...
Préférablement.
C'est difficile.
Ouais. Donc, ça nous a pris... On a parlé à plusieurs personnes, mais éventuellement, Olivier, pour nous, c'était le candidat idéal dans le sens que c'est un jeune directeur sportif qui d'une façon, pense aussi encore comme un joueur, ce que j'aime dans lui, qui a démontré vraiment, quand on regarde sa fiche de route, il a démontré avec tous les postes qu'il y a eu auparavant qu'il est capable de bâtir des clubs qui ont du succès sur le terrain, mais aussi en même temps se fier à des jeunes joueurs qui vont dénicher soit d'autres clubs ou de son académie pour vraiment créer une jeune équipe excitante avec qui a du succès, puis aussi être capable de vraiment s'insérer dans le marché de la vente et de la revente des joueurs. Ce qui est quelque chose qui fait partie du sport. Mm-hmm. C'est peut-être pas naturel pour nous autres ici parce qu'on est habituellement au sport en Amérique du Nord. Donc, Olivier entre en place, Vassili Kremanzidis se sert et son adjoint est vraiment son bras droit parce que Vassili connaît la ligue à profond et les règles. Et puis avec ça, on ajoute un Thierry Henry qui fait le choix de se joindre à nous ici à Montréal dans la MLS avec l'Impact. Donc, du côté sportif, je trouve ça très encourageant la direction où on s'en va. Côté affaires, c'est un peu plus difficile dans le sens que...
Mais c'est justement, je vous entendais avec Mario justement lundi, puis ça m'a titillé un peu, puis vous me le redites là encore ce soir. Puis je vais vous la poser tout de suite, la question. Est-ce que c'est difficile à vendre le soccer à Montréal?
Je vais répondre ça en disant que... On s'est rendu la vie difficile à vendre le soccer à Montréal.
Pourquoi?
Parce que moi, je regarde ce qu'on a fait dans le passé, et puis je pense qu'on a... Puis j'ai dit dès le début, on doit prendre notre place dans le marché.
C'est difficile de prendre sa place
dans le marché? Je pense qu'il faut être agressif, il faut avoir de la confiance d'entrer dans le marché, puis dire, non, nous sommes un sport global avec de plus en plus d'importance, non seulement à travers le monde, mais surtout en Amérique du Nord et ici au Québec et au Canada. Les jeunes athlètes les jeunes joueurs de soccer canadiens commencent à prendre leur place sur le marché international. On regarde un Jonathan David, on regarde un Alphonso Davies. C'est des jeunes joueurs qui ont joué au Canada qui maintenant sont des joueurs d'importance globale. Donc, le landscape commence à changer, mais nous autres, on doit entrer dans le marché avec confiance pour dire nous sommes l'équipe de Montréal qui joue dans une ligue dont la croissance est la plus importante à travers l'Amérique du Nord parmi les autres ligues. Et même si on le compare à des ligues à travers le monde, la croissance de la ligue est incomparable à d'autres. Et on doit parler aux gens avec une confiance pour dire qu'on est un produit que les Montréalais devraient aimer voir, ils devraient aimer venir au stade. Puis je pense qu'on n'a pas pris le temps de dire aux gens vraiment notre histoire puis de les convaincre de venir au stade. Parce que moi, je suis convaincu qu'une fois que une personne vient au stade, ils reviennent.
Mais c'est quoi l'équipe qui vend l'impact là, aux entreprises qui nous écoutent présentement? Ouais. Il y en a sûrement des hommes, des femmes d'affaires qui nous écoutent puis qui se disent... Bon, ben, M. Gilmour est là, il va peut-être nous convaincre d'embarquer dans l'aventure. C'est quoi l'argument ou les arguments que vous offrez à ces gens-là qui hésitent encore d'embarquer dans l'aventure?
Écoute, je pense qu'il y en a plusieurs. Mm-hmm. Il y en a plusieurs. Dans un premier temps, je pense qu'on, justement, un an, on est commencé. Juste point de vue, la place qu'on prend dans le marché, si on regarde les rapports d'influence communication par les médias, notre part de marché ou la partie de toutes les nouvelles la place qu'on a pris parmi toutes les nouvelles à travers le Québec cette année a augmenté de 20%. Mm-hmm. On est troisième en arrière des Canadiens et les autres équipes de la Ligue nationale. Après ça, c'est l'Impact. Puis en arrière de nous autres, il y a le baseball, il y a la NFL, il y a le basket, il y a les Alouettes. Donc, on a vraiment commencé à prendre notre place. On parle de plus en plus aux partisans, non seulement de soccer, mais des partisans de sport. Il y a 2,1 millions de fans de sport à Montréal, dans la grande région. Là-dedans, il y en a 1,9 qui sont fans de soccer. Mm-hmm. Donc, c'est presque 50% de la population qui sont fans de soccer. Il y en a 1,3 qui regardent le soccer à la télé. Ça, c'est juste à Montréal. On a aussi le bénéfice d'être pouvoir être capable de parler à tous les gens à travers le Québec. Par opposé à d'autres ligues, comme moi, quand j'étais avec les Canadiens, notre plus grosse frustration, c'est quand on parlait à des partenaires, on leur disait, vous vous associez aux Canadiens, mais rappelez-vous que vous pouvez vous servir de la marque seulement dans 75 km du Centre Bell. Mm-hmm. Des règles imposées par la ligue. Dans le cas de la MLS, nous autres, notre marque, nos partenaires peuvent s'associer à notre marque, à notre sport, à nos joueurs, etc., à la Ligue, à travers le Québec. Et récemment, on a signé une entente avec Soccer Québec. Oui. Donc maintenant, on peut parler à tous les joueurs du soccer à travers le Québec. Moi, j'aimerais dire que si un jeune porte un maillot de soccer au Québec, mon but, c'est qu'il sent, il y a un sens d'appartenance. Qui font partie de la grande famille de l'Impact. Donc, quand on parle de grassroots, on parle via notre entente avec Soccer Québec à tous les joueurs de Soccer au Québec dans la grande pyramide. On commence aux professionnels en haut jusqu'aux jeunes joueurs qui commencent à un très jeune âge. Il y a la démographie du soccer qui ressemble beaucoup à celle du basket. Oui. C'est une démographie beaucoup plus jeune, beaucoup plus diverse. Quand on regarde le Québec, quand on regarde Montréal, on est d'un peuple très divers. Très inclusif. Mm-hmm. On est une ville qui a été fondée par 5 peuples. Puis maintenant, c'est une ville où il y a 30 langues maternelles. Donc, moi, je dis qu'on est un produit qui parle à toutes les cultures, les gens de différentes cultures, différents pays, etc., d'une façon que les autres sports ne parlent pas. Et puis, je pense que maintenant, au Québec, c'est une réalité quand on parle aux consommateurs. Notre consommateur, c'est pas le même consommateur qu'on avait il y a 30 ans ici au Québec. C'est très différent. Nous autres, sur le terrain, on est des joueurs qui viennent... On a 11 joueurs qui viennent de différents pays, différentes cultures, différents langages, différentes religions. Puis, ils se rassemblent comme une communauté. C'est pas Montréal, c'est pas le Québec, ça, je sais pas c'est quoi.
Mais... Va pour les consommateurs qui achètent le billet pour aller au stade, assister au match de l'Impact. Puis il y en a des amateurs de soccer, puis je ne renie pas ça. Mais je reviens encore aux entreprises qui hésitent à embarquer dans l'aventure de l'Impact. Est-ce que ce n'est pas frustrant pour un président? Je me rappelle l'été dernier, Zinedine Zidane s'en vient ici pratiquer au stade Saputo. Ouais. Il y a 16 000 personnes pour une séance d'entraînement. Ouais. C'est plein, puis là, on se dit, il y a des gens qui disaient, si vous doutez de la popularité du soccer, ben vous en avez une preuve, mais vous avez eu quand même quelques difficultés à remplir le stade Saputo.
Ouais. Ça, écoute,
Est-ce que c'est une frustration que vous avez?
Oui, c'est une frustration. Ben, c'est une frustration, c'est un constat. C'est un constat. C'est pas une frustration, c'est un constat. Puis ça nous démontre qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Mm-hmm. La raison pour laquelle tu as 16 000 personnes qui viennent voir cette séance de pratique-là, c'est que tu as 16 000 personnes, ou encore beaucoup plus, mais 16 000 qui sont venus au stage, qui ont développé un lien émotif avec soit Zidane, avec Real Madrid, avec Eden Hazard, avec un joueur sur le... Parce que Eden était avec Chelsea peut-être avant, et puis ils sont fans de Chelsea. Donc c'est des gens qui ont développé une connexion émotionnelle. Le sport, c'est ça. La raison pour laquelle les gens viennent à un match des Canadiens, un match d'un Impact, un match des Alouettes, c'est à cause qu'à un certain point, ils ont développé une connexion émotionnelle avec un des joueurs, avec le club, avec le sport. Il faut travailler sur ça, nous autres. Il faut vraiment créer un sens d'appartenance que si on est fan de football ou de soccer au Québec, on peut être fan de Manchester United, ça peut être notre club de cœur, mais le club dans notre ville, le club dans notre province qui nous appartient, c'est l'Impact de Montréal. On peut toujours être un fan de Manchester United ou de Chelsea ou d'FC Barcelone. Ça peut être vraiment notre club, mais dans notre ville, il n'y a seulement qu'un club de soccer. C'est l'Impact de Montréal. Donc, c'est une question de commencer à créer des liens émotionnels, des liens de rattachement entre, comme j'ai dit, juste à Montréal, les 2,1 millions de fans du sport, 1,9 du soccer, puis 1,3 qui regardent le soccer à la télé. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au soccer, c'est de connecter avec eux autres.
Est-ce que vous me parlez d'un lien émotionnel, d'un lien d'appartenance avec une équipe? Est-ce que l'Impact peut se permettre de perdre un joueur comme Nacho Piatti, par exemple?
Écoute, le soccer, c'est intéressant parce qu'il y a très peu de joueurs qui passent leur carrière au complet avec un club. On regarde en Europe, les grands joueurs, sauf Messi, disons, les grands joueurs se promènent partout. Et ça, c'est la réalité du sport. Je pense que Nacho Piatti est un grand joueur qui a vécu et partagé des grands moments avec les partisans. Puis on espère que ça va continuer. Mais un jour, Nacho Piatti va partir. Et je me dis que les gens qui sont devenus fans de l'Impact à cause de Nacho vont pas délaisser l'équipe. Ils vont rester avec l'équipe, puis ils vont se rattacher personnellement avec le prochain jeune joueur qui s'en vient, que ce soit un Boyan ou que ce soit un jeune qui sort de l'académie qu'on connaît même pas encore, mais que dans 2 ans, c'est un jeune prodige de, je sais pas, au moins 17-18 ans qui se démarque déjà à son jeune âge et qui fait partie de la famille de l'Impact. Donc, c'est inévitable que les joueurs vont partir. C'est pas juste Nacho qui va
le jeter. Mais ça donnerait quand même un dur coup à l'Impact parce que les gens se sont quand même intéressés à lui, amourachés de lui même, je dirais. Il est devenu le visage de l'Impact de Montréal, comme Didier Drogba l'était quand il est arrivé ici à Montréal. Et quand il est parti, ce que vous me dites, vous espérez que les gens qui ont aimé Piatti, même s'il part, vont rester fidèles supporters de l'Impact. On le voit avec Drogba. Il y a une baisse quand même de popularité.
Oui, mais il faut se dire que Drogba est rentré puis il est sorti assez vite. C'est pas comme si il y a...
Mais c'était un coup de circuit que vous aviez frappé à l'époque.
Oui, c'était un coup
même
de circuit. Non, je veux dire, c'était un coup de circuit, mais personne sur les buts.
Oui.
Dans le sens que ça c'était très bien, mais l'équipe était pas, l'organisation était pas prête pour avoir un joueur comme lui se joindre à l'équipe pour s'assurer qu'il puisse capitaliser tant au niveau marketing qu'au niveau revenu de son arrivée.
Vous seriez davantage en mesure aujourd'hui de faire face à un grand défi comme celui-là?
Mais moi, je regarde pas ça comme un défi, je regarde ça comme une opportunité.
Comme une opportunité.
Je pense qu'on serait plus prêt aujourd'hui. Ben, regarde, on parle de Thierry Henry.
Ouais.
Thierry Henry s'en vient ici. On est prêt pour l'arrivée de Thierry. On est prêt pour s'assurer que son arrivée nous impacte non seulement aujourd'hui, mais demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. OK? Parce que Thierry Henry va nous faire vivre des grands moments ici, à Montréal. Avec l'Impact. Ça, j'en doute aucunement. Et puis, ces grands moments-là, c'est ça qui va créer des liens émotionnels avec des gens qui sont peut-être pas encore des fans, mais ils viennent au stade, puis il y a quelque chose d'incroyable qui se passe, puis ça les marque, puis ils reviennent. Moi, je dis souvent, les Canadiens, eux autres, sont chanceux parce qu'ils ont 24 grands moments qu'ils ont vécu avec les gens. Puis ça reste, puis ça devient multigénérationnel. On n'est pas une équipe de 110
ans d'histoire.
OK? Ouais. On est une équipe de 25 ans d'histoire, et puis seulement depuis 2012 dans la MLS. Donc, on a encore beaucoup de moments à créer ensemble avec les partisans pour vraiment tisser des liens étroits avec eux du point de vue émotionnel et éventuellement, du côté affaires avec les grandes compagnies du Québec.
On passe la soirée avec le président de l'Impact, Kevin Gilmour. Kevin, on l'a dit d'entrée de jeu tout à l'heure, aujourd'hui, 22 janvier, marque le premier anniversaire de votre arrivée à la présidence de l'Impact de Montréal. Si je vous demandais la grande différence entre votre équipe de cette année et celle de l'an dernier quand vous êtes arrivé, ce serait quoi?
Je pense qu'il y a plusieurs différences. Dans un premier temps, je pense qu'on va commencer la saison avec certains joueurs qui n'étaient pas avec nous l'année passée. Dans le sens que Lasse Lapanainen va être avec nous dès le début. Il s'est joint à nous tard dans la saison. Il s'est démarqué de façon assez impressionnante pour un jeune gars, pour un jeune joueur. Il a été nommé parmi les 20 meilleurs dans la Ligue en dessous de l'âge de 21 ans. Bojan est ici à partir du début de la saison. L'année passée, il s'est joint à nous après avoir passé peut-être 6-7 mois sans jouer. Donc là, il s'en vient vraiment, comme on dit, il va commencer la saison en game shape. Puis lui aussi s'est démarqué de façon assez impressionnante pour quelqu'un qui n'avait pas joué depuis longtemps. Mais Bojan, il est encore jeune, il reste beaucoup de soccer dans lui, puis on s'attend à de grandes choses de lui. Il y a Romel Kyoto qui joue à nous, qui n'était pas avec nous l'année passée. Donc, en plus, Nacho Piatti est en santé. Donc, on s'attend à ce que son début de saison soit différente que l'année passée. Donc, il y a beaucoup de choses que moi, je regarde de façon très positive. Je crois aussi qu'il y a juste à regarder les quelques entraînements ici, à parler aux gens qui sont en Floride avec le club, qui a un enthousiasme et un niveau d'intensité qui vient peut-être un peu du fait qu'on a inséré beaucoup de jeunes au camp d'entraînement cette année. Et avec ça, ça lève toujours l'intensité quand on voit des jeunes qui viennent avec un niveau vraiment plus élevé d'enthousiasme pour les entraînements dès le début, ça pousse les autres. Mais aussi avec l'arrivée de Thierry. Je pense que on voit que son approche reflète vraiment le type de joueur qu'il était. Il était très exigeant envers ses coéquipiers. C'est pour ça qu'il a eu le succès qu'il a eu. Et je pense qu'on voit la même chose avec les joueurs. Exigeant, mais jamais avec un manque de respect. Mm-hmm. Il l'a même dit lui-même. Il en demande beaucoup, mais jamais de façon à démontrer un manque de respect. C'est un monsieur très... je vais dire ça ben clairement, c'est un monsieur très poli, d'une très grande gentillesse et beaucoup de respect pour tous les gens, ce qui me frappait avec lui. Mais c'est quand même quelqu'un qui est très exigeant. Donc, j'aime sa façon, la façon dont son approche envers les joueurs. Et je pense que ça amène un respect, mais aussi un besoin de démontrer qu'on est prêt à jouer pour lui. Donc, je m'attends à des choses vraiment différentes. Ça, c'est un des gros facteurs.
Est-ce que vous attendez à des résultats différents également? Parce que les gens, vous savez, vous avez travaillé pour le Canadien. Les gens à Montréal ont soif de victoire, ont soif de championnat. Puis je ne veux pas vous dire que l'impact est prétendant pour s'en aller à la Coupe MLS. C'est pas ce que je veux dire. Mais est-ce que les résultats seront plus positif que négatif cette année? Est-ce que...
Absolument.
Comment vous entrevoyez la saison avec une jeune équipe?
On bâtit vers ça. Et puis, je pense que cette année, on voit déjà quelques petits changements qui démontrent vraiment... Moi, j'ai toujours dit, c'est un club où on a toujours un manque d'identité. Qu'est-ce qu'on est? On est un club qui changeait avec... un nouvel entraîneur venait, donc on changeait... plusieurs joueurs pour accommoder l'entraîneur, parce que vraiment, les entraîneurs dans le passé ont presque joué un rôle entraîneur et directeur sportif. Donc, moi, je regarde le club de l'année passée, puis on pouvait regarder, on se disait, OK, ça, c'est les joueurs de Nick DeSantis, ça, c'est les joueurs d'Adam Braz, ça, c'est les joueurs de Rémi Gard. C'est un mix, là. Au lieu de dire, ça, c'est les joueurs de l'Impact, qui sont ici parce qu'ils... ils reflètent et ils sont capables de jouer dans la culture et l'identité du club. Cette année, on remarque que les changements qui ont été faits, c'est des changements apportés par Olivier, avec une vue à long terme en tête. Pas une vue de remplir des trous qui sont là présentement, qui ne seront peut-être pas là dans 6 mois ou dans 12 mois à cause
des jeunes
qui sont là.
On travaille sur du long terme.
On travaille sur le court terme et le long terme. Autrement dit, le soccer, c'est différent. C'est pas comme si... Si on fait des changements, ça peut prendre des années avant que ça peut avoir un impact. Le système est tel qu'il n'y a vraiment pas de repêchage. Il y a un repêchage à la Ligue, mais ça a de moins en moins d'importance. on peut aller se chercher, acquérir ou, comme on a fait l'année passée avec Balou et Broguillard, des emprunts de clubs où les joueurs sont présentement. Donc, on peut amener des changements assez rapides au soccer. Ce qui prend un peu plus de temps, peut-être, c'est d'insérer une culture et une identité. Mais je pense que déjà, on commence à voir ça avec Olivier et Thierry qui sont vraiment arrimés sur ça, que ça commence à connecter avec les joueurs.
On vous a beaucoup connu avec... vous avez travaillé pour le Canadien, vous avez travaillé pour les Kings, vous avez travaillé pour les Mighty Ducks aussi. Étiez-vous un amateur de soccer, vous, avant d'être président, d'être nommé président de l'Impact? Étiez-vous un sportif?
Ben écoute, c'est intéressant parce que quand j'étais avec AEG, quand j'ai quitté les Kings, j'ai travaillé du côté affaires avec le propriétaire des Kings AEG. C'est une compagnie privée détenue par un dénommé Phil Anschutz. Le trophée de la MLS s'appelle le Phil Anschutz Trophy. Parce que quand j'étais là, on était propriétaire de 6 équipes de la MLS. Donc, je m'intéressais à la MLS, je m'intéressais aussi au soccer. Et puis, après que j'ai quitté AEG, j'ai pris un petit détour d'entrepreneur. J'étais propriétaire d'un terrain de soccer à Los Angeles.
Okay.
De 7 terrains, j'opérais ça juste comme un petit rêve d'entrepreneur. Donc, je me suis toujours intéressé au soccer en tant que fan. Je connaissais aussi la ligue et les clubs, compte tenu de mon rôle avec AEG.
Alors, Kevin Gilmore, qui est avec nous, le président de l'Impact de Montréal. L'Impact qui, je vous le rappelle, va commencer ses matchs de la CONCACAF le 19 février du côté du Costa Rica. Ensuite, il y aura un match au Centre Bell, au Stade Olympique, évidemment, le 26 février. Et je pense que la vente de billets va bien pour le match du 26 février, non?
Oui, j'ai pas eu les numéros... dans le dernier jour, parce que c'est pas notre billetterie, malheureusement, donc les rapports viennent tranquillement. Mais lundi, déjà, les billets sont à la vente samedi, puis la vente était très bonne.
Bon, tant mieux. Et le premier match de la saison régulière, évidemment, au stade, le 29 février.
Oui.
Contre Nouvelle-Angleterre.
Du soccer en février à Montréal.
Du soccer en février à Montréal. Il était question de stade avec des bancs chauffants puis le terrain chauffant. Ça, est-ce que c'est toujours dans les plans?
C'est toujours quelque chose qu'on regarde, on considère, et en même temps, on est en discussion avec le Stade olympique pour voir si on peut vraiment, en vue de la Coupe du monde en 2026, les changements qui vont être apportés au stade, conformément non seulement à ça, mais aux rénovations qui vont se faire pour vraiment moderniser le stade olympique. Il y a peut-être un terrain d'entente là, qui éviterait qu'on ait à vraiment faire des gros investissements dans le stade pour hiverniser, pour jouer des matchs au mois de mars. Mais parce qu'en fin de compte, tout investissement dans le stade, on se fait taxer sur ça. C'est encore un enjeu. Donc, c'est difficile de justifier des investissements quand on doit payer une taxe assez haute sur chaque dollar qu'on investit dans le stade en taxe. Donc, il y a plusieurs choses en jeu.
Vous êtes ses freins un peu quand vient le temps de parler d'investissement. Vous dites on est taxé sinon par la...
Écoute, je l'ai déjà dit, on est prêt à investir. C'est un investissement privé que notre propriétaire est prêt à faire dans le stade pour le moderniser. Mais tant aussi longtemps que l'investissement ou les taxes sur des investissements comme ça sont en place, ça va être difficile pour nous autres de justifier ça.